Chapitre 6. Mardi 24 décembre 2024. Ça ne m'avait pas manqué de dormir avec quelqu'un. Cela fait quelques années maintenant qu'Antoine et moi dormons séparément. Avec nos rythmes de vie, il rentre régulièrement très tard, et nos besoins différents en matière de sommeil. 17 degrés, ce n'est plus une chambre à coucher, c'est une chambre froide, pardon. C'est bien plus simple. Il paraîtrait en plus que je ronfle, ce que je réfute bien sûr avec la plus grande véhémence. Ça surprend nos amis lorsqu'ils l'apprennent, non pas que je ronfle, ce qui n'est pas vrai, mais que nous fassions chambre à part. Parce qu'ils se demandent aussitôt comment il est possible dans cette configuration de conserver une vie sexuelle. Rien de plus simple en réalité. Ne pas dormir ensemble ne signifie pas ne pas se coucher ensemble quand nous sommes tous les deux à la maison. Et puis c'est l'occasion de se donner de petits rendez-vous, de se préparer à accueillir l'autre, de faire monter le désir. Brune a remué toute la nuit, agrémentant ses mouvements et retournements de paroles inintelligibles. Ce matin, sa respiration est lente et paisible. Seules quelques mèches de cheveux dépassent de la couette sous laquelle elle s'est enfouie. À pas de loup, je me glisse hors du lit. Qu'elle profite encore de ces instants de sommeil où il n'est question ni de beaux brins ténébreux, ni de cousine amoureuse en colère. Je suis presque heureuse que Nina Lou et Brune soient en froid, parce que ça a obligé ma fille à se réfugier auprès de moi. Hier, nous avons sans doute eu notre discussion la plus longue depuis plusieurs années. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour nous deux, que nous pouvons encore créer un lien mère-fille, que je ne suis pas complètement incapable sur le plan familial. Dans la cuisine, je retrouve ma sœur et son mari. Il a la main tendrement posée sur son ventre.
Bonne journée, mon bonhomme. Profite encore un peu de cette douce chaleur utérine. Ne sois pas pressé de rejoindre ce monde sans foi ni loi.
La référence juridique est clairement pour moi. Hervé m'en veut sans doute encore d'avoir abandonné Nathaline hier matin, occasionnant stress, contractions et frayeurs d'accouchement prématuré.
Ne t'inquiète pas, mon chéri, puisque ce sont les filles qui tiennent le stand au marché de Noël ce matin, je vais rester tranquillement ici à préparer le repas du réveillon. Et promis, je m'allongerai aussi souvent que possible.
Hervé embrasse une dernière fois sa femme, me gratifie d'un signe de tête au max de sa politesse avant de quitter la maison. Il n'a pas l'air très serein.
C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai dû user de la menace pour qu'il ne m'examine pas toutes les 5 minutes. Si j'avais su, j'aurais épousé un plombier. Ce qui, en y pensant, nous aurait été utile bien plus souvent.
Son expertise devrait pourtant le rassurer. Au moins, il ne sera pas pris au dépourvu.
Le problème, c'est qu'il en sait trop, et notamment sur tout ce qui pourrait mal tourner. J'ai 40 ans, je te rappelle, ce qui est clairement une date de péremption largement dépassée en matière de grossesse.
À ce sujet, tu ne m'as pas dit comment... Enfin, si c'était... voulu ?
Non, ça ne l'était pas. Enfin, ça ne l'était plus. Nous voulions 2 enfants, c'était le plan de départ. Mais au bout de 6 années d'essais infructueux après la naissance de Nina Lou, j'ai fini par accepter que ça n'arriverait jamais, et par me consoler en me disant que j'étais déjà chanceuse d'avoir eu ma fille. Avec le temps, le désir d'un second s'est estompé et a même fini par disparaître complètement. À tel point que j'étais convaincue que je choisirais l'IVG sans même y réfléchir, si par hasard je devais être enceinte. Pourquoi cette grossesse après tant d'années ? Personne ne peut l'expliquer. C'était tellement improbable que j'ai d'abord pensé à la préménopause lors de mon premier retard de règles. Quand mes seins ont soudain grossi et que j'ai commencé à vomir tous les matins, j'ai fini par envisager l'option grossesse. T'aurais vu ma tête quand le test a viré positif en à peine quelques secondes. J'étais complètement paniquée. Parce que je savais déjà au fond de moi que j'allais garder le bébé.
Jamais ma sœur ne m'avait dit que Hervé et elle avaient essayé pendant plusieurs années d'avoir un autre enfant. Jamais je n'ai posé de questions, cela dit. Toutes ces années perdues à être en colère, à lui en vouloir pour quelque chose dont elle n'était pas responsable. Quel gâchis! Comme avec ma fille, je me demande s'il n'est pas déjà trop tard, s'il nous sera possible de construire une vraie relation. J'en ai vraiment envie, et j'en suis la première surprise.
Et si on changeait de sujet? Ma grossesse prend un peu trop de place à mon goût ces dernières heures. Est-ce que t'as des infos sur ce qui s'est passé entre nos filles? T'as pu discuter avec Brune?
Oui, en fait, elle est venue dormir avec moi cette nuit.
J'hésite à lui dire le pourquoi du comment. Est-ce que je ne devrais pas la laisser aller en parler avec sa fille d'abord?
Je n'ai de toute façon pas le temps d'ajouter quoi que ce soit, interrompu par un troupeau de bisons descendant les escaliers. Brune et Nina Lou font irruption dans la cuisine avec leurs airs des mauvais jours. En moins de 5 minutes, et sans un mot ni regard l'une pour l'autre, elles raflent des petites bouteilles de jus d'orange, 2 crêpes chacune, fraîchement préparées par moi-même. D'ailleurs, je suis triste que personne n'ait pensé à la fanfare pour accompagner ma danse de la réussite, et quelques donuts. Puis, aussi vite et silencieusement qu'elles sont entrées, elles ressortent, attrapent leur manteau suspendu dans l'entrée et quittent la maison. Le trajet jusqu'au marché de Noël risque d'être glacial, voire carrément congelé. Hier, tout semblait réglé entre Nina Lou et Brune. Mais c'était compté sans ce qui sépare les filles, les cousines comme les amis, et ce depuis la nuit des temps. Les mecs.
Au rythme où vont les choses, nous ne reverrons maman qu'à Noël 2046, soupire ma sœur. Brune t'a dit quelque chose?
Oui, et l'histoire se résume en un mot. Jessie.
Jessie? Le gars qui était à la fête hier soir. Il est dans le même lycée que ta fille. J'aurais préféré que tu la prennes par elle, mais disons qu'elle en pense pour lui, et que lui en a plutôt après Brune. Nina Lou pense que Brune a agi dans son dos pour le lui piquer, et Brune, bien qu'elle n'ait rien fait d'elle, n'est pas indifférente au regard de ce bel âtre.
Bref, on nage en plein triangle amoureux.
Exactement.
Comme quoi, ils ont beau lever les yeux au ciel devant nos remarques d'un autre âge, lorsqu'il est question d'amour, rien de nouveau sous le soleil.
Ton avis sur l'issue de ce psychodrame?
J'ai simplement dit à Brune qu'elle avait un choix à faire, en espérant qu'elle fera le bon. J'ai préféré ne pas trop m'étendre, histoire qu'elle ne fasse pas le contraire de ce qu'elle devrait par pur esprit de contradiction. Qu'elle fasse son ado, quoi.
C'est bien qu'elles soient toutes les deux sur le stand de la biscuiterie ce matin. Ça va les obliger à se parler.
Ou à s'entretuer.
J'aime ton optimisme.
Que veux-tu? Tu travailles dans le sucre et moi dans les criminels.
Nous sommes nous aussi en tête à tête. C'est peut-être le bon moment pour discuter de l'avenir de la biscuiterie.
Nathaline, par rapport à ce que je t'ai annoncé hier pour la biscuiterie, je voulais...
Est-ce qu'on est obligé d'en parler aujourd'hui?
Ce soir, c'est le réveillon. Notre mère ne sera probablement pas là. Nos filles seront peut-être en plusieurs morceaux. Je ne sais pas si je peux encaisser en plus la fin du statut familial de la biscuiterie.
Ça peut attendre quelques jours. Ça te laisse aussi le temps de réfléchir, d'être sûr, de vouloir abandonner.
Au fond de moi, je sais que je n'ai pas besoin de plus de temps, que ma décision est prise. Mais Nathaline a raison sur un point, il n'y a pas d'urgence. Les dossiers sont déjà nombreux sur la table, à commencer par celui de la disparition de notre mère. Je me demande si elle compte revenir un jour, si tout ce stratagème n'est pas un prétexte pour s'échapper et aller passer ses vieux jours tranquilles au soleil. Quand on y réfléchit, elle n'a pas vraiment laissé d'instructions, ni dans sa vidéo, ni dans ses courriers. Elle a dit que Maître Bramier la tiendrait informée, mais pour cela encore faudrait-il que le notaire prenne des nouvelles. Tout ça est quand même très bizarre. Ou alors, elle a planqué des caméras dans toutes les pièces et passe des heures à nous regarder sur 10 écrans qu'elle a fait installer dans son salon. Du Truman Show au Praline Show, il n'y a peut-être qu'un pas. Tétanisée, je ne bouge plus d'un millimètre. Seuls mes yeux sont mobiles et tentent de repérer d'éventuels appareils de vidéosurveillance.
« Tout va bien ?» me demande ma sœur.
Je suis sûre qu'elle nous espionne.
Qui ça ?
Notre mère, qui d'autre ?
Tu es démasquée, maman !
J'énonce à voix haute. Nathaline me fixe désormais du coin de l'œil comme si j'avais perdu la tête. Quand la sonnette de l'entrée retentit, je me précipite sur la porte et l'ouvre à la volée, convaincue d'y découvrir derrière ma mère prête à demander pardon pour sa mauvaise plaisanterie.
Famille Praline ?
M'interroge un livreur patibulaire de 2 mètres à ne pas croiser dans une rue sombre le soir.
J'ai un colis pour vous.
Je signe le registre qu'il me tend, puis saisis la petite boîte en carton, objet de sa course.
« Qu'est-ce que c'est ?»
me demande Nathaline en me rejoignant péniblement dans le sas d'entrée.
« Un colis. Il n'y a rien d'écrit dessus, aucun destinataire. »
Je me rassois dans la cuisine, flanquée de ma sœur, puis avec une certaine crainte, j'ouvre la boîte. À l'intérieur se trouve une dizaine de biscuits chinois, comme on en voit parfois dans les films, ceux dans lesquels se trouve un message ou une prophétie.
« Oh, des fortune cookies !» s'écrie Nathaline. « J'adore ces trucs. C'est de la part de qui ?»«
Aucune idée. Il n'y a pas d'inscription à l'extérieur ni de mots à l'intérieur. » Excitée comme une puce avec un énorme ventre de femme enceinte, Nathaline attrape un premier biscuit qu'elle casse en deux pour en extraire un petit papier.
« Citez les trois principales qualités de votre sœur, » lit-elle à voix haute avant d'éclater de rire. « Bien joué, maman. Tu penses que... ça me paraît évident. La connaissant, elle ne pouvait pas rester passive dans sa cachette. Si jamais nous n'avions pas commencé à nous parler pour régler nos différends, elle comptait nous y obliger. « La confiance règne !»
lançais-je moi aussi à voix haute, à destination d'un éventuel système de caméras de surveillance.
« Trois qualités, » répète Nathaline tout en réfléchissant. « Je dirais... »«
Prends tout ton temps, surtout, » raillais-je.
« Tu es pugnace, » lâche-t-elle satisfaite. « Oui, voilà une première qualité. »
« Pugnace, c'est un peu pourri comme qualité, non ? Ça fait un peu tic planté dans un mollet, » grommelais-je.
« Tu es intelligente, c'est une qualité, ça. Et ambitieuse. Pugnace, intelligente et ambitieuse, » répète-t-elle, visiblement satisfaite de sa liste. « Ça ressemble au portrait robot d'une dictatrice en puissance. Quand j'aurai envahi mon premier pays, je te raconterai tout dans les moindres détails. »
« Tu es une femme forte qui n'a peur de rien, c'est comme ça que je te vois, Barbara.
Et pour moi, c'est absolument pas négatif, au contraire. Allez, à toi, cite mes trois principales qualités.
Hey » « Hé !» protestai-je, « il faut ouvrir un autre biscuit, c'est pas toi qui décides des règles du jeu. »«
Je t'en prie !»
insiste-t-elle, le regard suppliant.
« J'ai pris 250 kilos depuis le début de cette grossesse. Cela fait des semaines que je ne sais plus à quoi ressemblent mes pieds. Et ma vessie a une autonomie de 8 minutes 30. J'ai besoin d'entendre des choses réconfortantes. »«
Ok, ok. Alors je dirais que tu es créative, loyale et patiente.
Un labrador, quoi. »
Cette fois, c'est à mon tour d'éclater de rire.
« Plains-toi, tout le monde aime les labradors, alors que les dictateurs... »
Je prends un deuxième fortune cookie dans la boîte et le casse en deux.
Racontez un moment partagé avec votre sœur.
Je lis.
Un moment partagé.
Rien ne me vient d'emblée. Aucune image ne refait surface dans mon esprit. C'est quelque chose que j'ai déjà constaté. Quand on me demande de parler de mon enfance, de raconter, c'est le vide. Alors que je me souviens du digicode de mon tout premier appartement. C'est comme si j'avais mis mon passé sous clé après l'avoir archivé.
« Oh, oh !» intervient Nathaline. « Tu te souviens de cette fois où tu m'as coupé une couette à rats ? Maman en a pleuré pendant des jours. Je suis retombée sur une photo de cette époque il n'y a pas si longtemps. »
Maintenant qu'elle m'en parle, ça me revient, forcément. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Nous étions toutes les deux en quarantaine pour cause de varicelle et donc un peu livrées à nous-mêmes plusieurs heures d'affilée par jour. Notre mère quittait la biscuiterie aussi souvent que possible pour venir vérifier que tout allait bien, mais il fallait bien trouver à s'occuper. Nous avions commencé par nos poupées Barbie, puis à court de cheveux synthétiques, nous étions passés à la vitesse supérieure. En tant qu'aînée, c'est moi qui avais imposé l'ordre de passage sous les ciseaux. Était-ce un jeu, ou avais-je déjà de la rancœur envers cette petite sœur qui me volait l'amour de notre père ? Je suis incapable de le dire. Je suis désolée d'avoir coupé ta couette. Sincèrement.
On était des gamines. J'ai pas le souvenir d'en avoir été traumatisée. Par contre, je me rappelle qu'on avait beaucoup ri en faisant croire à maman que je m'étais réveillée de la sieste comme ça et en la regardant chercher la couette. On l'avait planquée où déjà ?
Sous le tapis de ta chambre, non ?
Oui, c'est ça. On était vraiment nuls en cachette.
Et en coiffure, j'ajoute.
J'aimerais avoir tous ces souvenirs à portée de mémoire, pouvoir les convoquer toute seule. Ça me permettrait sans doute de nuancer mon ressenti, de sucrer mes aigreurs.
Dites une chose que vous n'avez jamais révélée à votre sœur,
lit Nataline après avoir récupéré le morceau de papier dans un nouveau fortune cookie.
C'est bien moi qui ai volé le billet de 50 francs dans le porte-monnaie de maman,
m'avoue-t-elle sans même prendre le temps de réfléchir une seconde.
Quoi ? J'avais été punie de sortie pendant des semaines pour avoir refusé qu'elle fouille dans mes tiroirs afin de vérifier que je disais bien la vérité. Ça l'avait rendue folle. C'était toi, en fait ?
Oui. Je pensais pas qu'elle allait t'accuser. Je pensais qu'elle croirait l'avoir perdu.
Le pire, c'est que j'ai jamais utilisé ce billet. Je suis sûre qu'il doit être encore quelque part dans la maison. Je me disais que si je le dépensais, maman le verrait tout de suite sur ma tête.
Pourquoi tu ne l'as pas tout simplement remis à sa place discrètement ?
Parce que j'étais contente que tu sois punie. Tu ne faisais que parler de tes futures études de droit. Tu n'avais qu'une envie, partir loin. Je me disais que tu n'en avais rien à fiche de moi et ça me rendait triste.
À cette époque, tu me balançais tout le temps que tu aurais préféré être fille unique.
À cause de cette punition, j'ai pas eu le droit d'aller voir Scream au cinéma avec la bande. Et Sophie en a profité pour me piquer Grégory ce soir-là. Quelle pourriture! Elle savait que j'en pensais pour lui. J'arrêtais pas de lui en parler. J'aurais dû te raser le crâne, tiens, plutôt que de te couper une couette.
Je suis désolée.
Mais c'est toi qui as refusé de laisser maman ouvrir tes tiroirs. Elle n'aurait rien trouvé puisque c'est moi qui avais le billet.
Elle n'avait pas de mandat de perquisition et c'était ma chambre.
Question de principe. T'aurais dû te dénoncer.
Et ne plus avoir le droit de sortir jusqu'à mes 45 ans ?
Non, merci.
Si ça peut te consoler... Son mari l'a quittée l'année dernière pour une femme de 20 ans plus jeune qu'elle. Une fille avec qui elle faisait du pilates.
Hein ? Mais de quoi est-ce que tu me parles ?
Sophie ? Ton amie la pourriture, c'est bien, hein, Sophie Grivelec ?
Oui ?
Eh bien, son mari s'est barré avec une jeunette de 20 ans l'année dernière. Il lui a laissé le crédit de leur maison et une petite ardoise en provenance de l'hôtel où il s'envoyait en l'air avec sa belle entre midi et deux.
Ça me console pas du tout.
Enfin, si. Un peu quand même.
20 ans de moins qu'elle.
C'est rude.
Il se murmure qu'elle les aurait surpris dans leur propre lit en pleine journée.
Épargnez-moi les détails, pitié.
Surpris, genre, en pleine action?
L'affaire était suffisamment engagée pour qu'il n'y ait guère de doute.
Les hommes sont tous des porcs.
Merci pour moi,
lance une voix masculine dans mon dos.
Antoine!
M'écriai-je avant de me précipiter dans les bras de mon mari que je n'ai pas entendu arriver.
Eh bien, quel accueil ! Je devrais te laisser seule avec ta sœur plus souvent.
Nataline, tu es... commence-t-il en se tournant vers ma sœur pour la saluer.
Très enflée, très fatiguée, très enceinte.
J'allais dire resplendissante.
Épargne-moi ton discours d'avocat. J'ai des yeux, je me suis regardée dans la glace ce matin, hein.
Il lui adresse un sourire charmeur comme il sait si bien le faire. Je le soupçonne de gagner ses dossiers rien qu'avec cet atout.
Qu'étiez-vous en train de faire ?
Notre mère nous a fait livrer une boîte de cookies pour intervenir dans notre réconciliation.
Et ça marche ?
Barbara s'est excusée pour m'avoir coupé une couette et je lui ai demandé pardon pour cette histoire de billet de 50 francs que j'avais piqué dans le porte-monnaie de notre mère et qui lui a valu des semaines de privation de sortie.
Des semaines ? Pour 50 francs ?
Barbara a refusé de la laisser inspecter ses tiroirs,
se défend Nataline.
On ne va tout de même pas me rendre responsable de ça.
Elle n'avait pas de mandat de perquisition. Je me sens à nouveau obligée de me justifier.
Tu sais à quel point je suis à cheval sur la procédure.
Il éclate de rire.
Et les filles, elles sont où ?
Possiblement en train de s'entretuer, je lui réponds.
À cause de Jessie.
Jessie ? On dirait un prénom de garçon, ça, Jessie. Quel âge a-t-il ? Est-ce qu'il a de la barbe ? Que font ses parents dans la vie ? Pourquoi s'intéresse-t-il à ma fille qui n'est encore qu'un bébé ?
Décidément, les pères, vous êtes bien tous les mêmes. Si j'écoutais Hervé, Nina Lou n'aurait pas le droit de sortir avant ses 35 ans.
Mais Hervé a raison, et croyez-moi, ça me coûte de le dire. C'est bien, 35 ans, non? C'est même encore un peu jeune, je trouve. 38 ans, c'est mieux. On n'est plus à 3 ans près.
C'est ce que j'appelle avoir le sens des priorités. Je te dis que notre fille et sa cousine sont peut-être en train de s'entretuer à cause de Jesse, et toi tu ne retiens que ce prénom. Tiens, ouvre un fortune cookie plutôt. Je lui tends un biscuit et suis prise d'un fou rire incontrôlable que je n'avais pas vu venir. Nathaline et Antoine, décontenancés, me regardent de travers, ce qui a pour effet d'augmenter mon hilarité. Je ne sais pas vraiment pourquoi je ris, mais ce dont je suis sûre, c'est que ça ne m'est pas arrivé depuis des années. Qui plus est dans cette maison. Je me sens bien, je crois. Je me sens prête à tisser des liens avec ma sœur. J'en ai même très envie. J'ai hâte que notre mère revienne et que nous puissions passer Noël en famille.
« Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, maman ?»
me demande Brune. Ninalou et elle, les joues encore rosies par le froid, se tiennent à l'entrée de la cuisine. Elles portent à deux une cage métallique contenant un énorme poulet recouvert de plumes. Vivant.
Tu vois qu'il n'y avait pas à s'inquiéter pour elle, réplique aussitôt Antoine. Bon, ma puce, qui est-ce Jesse et quelles sont ses intentions?
Brune rougit et bredouille quelques mots inintelligibles. Elle en lâche la poignée de la cage, déclenchant un concert de cris de protestation de la part du poulet qui, en perdant l'équilibre, s'est écrasé contre les barreaux.
Ma cliente invoque le 5e amendement!
Lance Ninalou pour venir à la rescousse de sa cousine, non sans malice.
5e amendement qui, comme vous le savez, l'autorise à garder le silence et à ne répondre à aucune question. Nous allons donc nous retirer dans ma chambre pour réfléchir à tout ça et à notre avenir, déclame-t-elle.
Elle passe son bras sous celui de Brune, tourne les talons, puis se ravise.
Une dernière chose, ça c'est Nugget. C'est notre nouveau chapon domestique. Comme on l'a attrapé, il a été gracié. Il faudrait lui donner un peu de maïs, je crois qu'il a faim.
Toutes les deux s'enfuient ensuite en courant, mortes de rire, et grimpent en trombe les escaliers. Pour les explications ou même simplement nous dire comment s'est passé le marché de Noël, on repassera.
Je ne sais pas comment, mais je crois que les cousines pralines se sont rabibochées,
se réjouit Nathaline en frappant des mains. Ce que confirme Nugget, notre nouveau chapon domestique, en remuant comme un diable dans sa cage. Si je croyais au sortilège, je ne serais pas loin de penser que le volatile était, il y a peu, un bipède répondant au doux nom de Jessie.